Michel Baillet vous présente les rendez-vous des colibris.
Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous des colibris. Nos entretiens développeront le rôle, les objectifs et les résultats des actions conduites pour l'environnement par des associations, des collectivités ou des entreprises. Aujourd'hui, nous recevons l'association La Ligue de la Protection des Oiseaux, mieux connue sous son sigle la LPO. Elle a pour objectif de connaître et protéger les espèces, de développer les espaces naturels et sensibiliser et mobiliser les publics. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux membres locaux de la LPO, Jean-Marin Després et Jean-Luc Deveau. Bonjour Jean-Marin, bonjour Jean-Luc.
Bonjour. Bonjour.
Je vous propose de nous présenter très succinctement, rapidement déjà, ce qu'est la LPO, qui je crois, me semble-t-il, est une centenaire qui se porte fort bien.
Oui, alors bonjour. Donc la LPO, c'est une association qui est effectivement ancienne, qui est plus que centenaire, on va dire, puisqu'elle a sensiblement 110 ans d'existence. C'est intéressant de rappeler l'histoire de cette association, puisqu'elle est née suite à des opérations de chasse alarmantes dans l'ouest de la France. On chassait le macareux moine sur l'archipel des Sept Îles. On assistait à des vrais massacres de ces oiseaux, les macareux. Et c'est à cette occasion qu'est né un groupe de défense de la nature qui a fondé en fait la première réserve ornithologique de France. Et ce groupe a donné lieu à la création de la LPO, Ligue de protection des oiseaux.
Très bien, Jean-Luc. Ben, c'est peut-être l'occasion de nous dire de façon un peu plus précise quelle est l'organisation de la LPO localement et sur le plan du territoire, sa structure, son fonctionnement.
La LPO se décline en différents niveaux, niveau national. Alors, elle compte quand même 45 000 adhérents. Elle se décline aussi au niveau régional avec la LPO PACA qui a son siège à Hyères. Et puis aussi, donc au niveau départemental, elle est partagée en différentes antennes et nous sommes une de ces antennes.
Très bien, je crois que vous avez un groupe local qui s'organise, c'est cela, sur le territoire autour de Carpentras.
On a un groupe local qu'on appelle le groupe local Ventoux, qui gère les actions de la LPO, qui s'occupe des actions LPO, sur le territoire sensiblement du parc régional nouvellement créé du Ventoux, plus quelques communes avoisinantes.
Qu'en est-il au niveau des adhérents sur le plan du territoire ?
Alors sur le plan du territoire, je vais regarder un peu mes chiffres et heureusement que j'ai pris des notes. Au niveau de la LPO PACA, on est à peu près à 3000 adhérents. Sur le Vaucluse, ça se traduit par environ 570-580 adhérents. Et notre groupe local comprend environ 80-90 personnes.
Tu nous disais tout à l'heure, Jean-Luc, que la LPO s'était créée dans le cadre de la défense du macareux, la protection du macareux.
Tout à fait.
Mais je crois que depuis, les objectifs et les missions de la LPO ont considérablement évolué. Qu'en est-il aujourd'hui de ses orientations principales ?
Alors effectivement, la LPO a élargi ses missions. Les préoccupations majeures de la LPO sont la protection, la défense et la connaissance de la biodiversité au sens large. Et également la protection des écosystèmes, la prise en compte des écosystèmes.
Oui, parce qu'on a tendance, LPO, le mot oiseau revient évidemment comme significatif de votre association. Mais aujourd'hui, vous débordez largement du cadre de la protection des oiseaux.
Absolument. Nous nous intéressons donc à toute la faune, donc soit les oiseaux, les mammifères, les insectes, et même à l'environnement au sens large, les habitats, tout ce qui concerne la biodiversité nous intéresse.
Il apparaît que vos thèmes principaux d'action, d'activité de la LPO aujourd'hui soient d'abord la reconnaissance du milieu, puis ensuite l'éducation et puis plus précisément la gestion. Est-ce que vous pourriez, pour chacune de ces orientations, nous en dire davantage, reconnaissance, éducation, gestion, et nous donner des exemples précis de vos activités sur le terrain.
Alors, je vais commencer par la connaissance. En fait, la connaissance, c'est la base de la protection. On peut pas protéger la nature, la biodiversité, sans la connaître. Et donc, la première activité qu'on a, c'est la connaissance de la faune et des habitats. Et donc, on met en place des inventaires naturalistes sur le territoire, donc pour connaître en détail toutes les espèces qui vivent. On dispose d'à peu près 150 000 données naturalistes sur le territoire de notre groupe.
C'est très bien, c'est l'occasion, tu viens, Jean-Marin, d'utiliser le terme de naturaliste. Jean-Luc, Jean-Marin, vous avez chacun, je suppose, dans le cadre de votre groupe, des orientations et des spécialités particulières. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est de votre rôle ?
Ouais, je vais expliquer un petit peu ce que je fais, moi, au sein du groupe. Donc, je suis chargé au sein du groupe de justement conduire les inventaires naturalistes, de organiser des inventaires, voilà. Et la première chose, c'est les inventaires, et de conduire des programmes de connaissances scientifiques ponctuels sur quelques espèces, notamment par exemple la chevêche d'Athéna sur le territoire de la commune de Mazan, sur lequel on a posé des nichoirs et on fait un suivi scientifique pour voir un petit peu l'état de cette espèce et comment on pourrait prendre des mesures pour la protéger. Et puis la connaissance, et puis conduire des sorties naturalistes pour permettre au public large, un public large, de connaître la nature qui vit sur le territoire.
Il y a un côté expertise là qui apparaît évidemment dans vos fonctions. Est-ce que tu peux nous en dire mieux sur ce que c'est qu'en fin de compte que la formation d'un naturaliste, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut nous transmettre comme qualité d'information?
Alors, un naturaliste, c'est avant tout du terrain. Hein. C'est donc, on ne peut pas connaître les choses dans un bureau ou un laboratoire en ce qui concerne le fonctionnement de la nature. Il faut absolument aller sur le terrain. Et donc, il y a des formations universitaires qui sont dédiées à l'apprentissage des méthodes dans différentes villes de France. Hein. Il y en a une à Montpellier, il y en a, à ma connaissance, une à Lyon. Et donc, mais on peut aussi... On appelle ça les naturalistes amateurs, mais on peut aussi devenir naturaliste sans suivre de formation. Au sein de la LPO, justement, on aide nos adhérents à mieux appréhender la nature, à mieux connaître, en organisant des sorties de terrain. Voilà.
Très bien. Merci Jean-Marin. Jean-Luc, alors, fais-nous un petit peu ton portrait, là, voilà. Hein, le rôle que tu joues.
Alors, mon rôle, alors déjà, je dirais que pour compléter ce que disait Jean-Marin, moi, je me situe comme naturaliste amateur et non de formation, et j'apprends sur le terrain, j'apprends au fur et à mesure. C'est d'ailleurs une de mes raisons d'entrer dans le groupe. Hein. C'est très intéressant de devenir un membre actif et d'apprendre au fur et à mesure des réunions, des sorties, des enquêtes de terrain. Donc effectivement, je me forme vraiment sur le tas et on apprend tous les jours. Une de mes actions phares aussi, c'est l'animation dans les écoles, les établissements scolaires, puisque c'est un des fondamentaux de la LPO, c'est d'éduquer, de former. Et c'est, je pense, un des piliers de la protection de l'environnement, c'est d'abord de comprendre, d'apprendre, de connaître, pour ensuite avoir envie de protéger. Donc voilà, donc je suis sur ce créneau, assez porté sur ce créneau. D'ailleurs, je suis, on va dire, le coordinateur des actions éducatives auprès des établissements scolaires. Mais j'interviens aussi, je m'implique volontiers dans les autres actions qui sont les comptages, les observatoires, comme le dit Jean-Marin, observatoire Chevêche, comptage Hirondelle, lien avec les communes, lien avec les particuliers, avec les agriculteurs, comme on le fait de temps à autre.
Ce serait l'occasion pour nos auditeurs donc de nous présenter exactement, concrètement, un contact avec une entreprise ou un agriculteur. Qu'est-ce qui se passe? Comment la LPO fait vivre sur le terrain ce genre de rencontre dans le cadre de ses responsabilités?
Alors, je peux raconter une petite action toute simple sur le secteur de serre, puis après, je passerai la parole à Jean-Marin sur notre action très intéressante sur ce plan-là. J'ai rencontré la personne qui gère les écuries Barthélémy, les écuries où on élève des chevaux. Et cette personne, par la discussion, par l'échange, d'ailleurs, cette personne m'avait posé des questions d'emblée, en sachant que j'étais à la LPO, sur l'observation de rapaces qui volaient au-dessus de son domaine. Et puis, il m'a demandé s'il serait possible, envisageable, de travailler à l'introduction d'hirondelles sur le secteur, puisque il y a un vrai fléau sur les écuries, c'est la présence de moucherons, de moustiques, de toutes sortes de proies qui sont vraiment celles, justement, des hirondelles. Et donc, nous avons commencé une action avec ces écuries en installant des nids et en faisant de la repasse, c'est-à-dire en installant un système qui diffuse les cris et surtout les chants des hirondelles au moment du printemps, au moment où elles arrivent chez nous, elles rentrent de migration. Voilà, c'est le type d'action qu'on peut faire et on espère voir les hirondelles rustiques revenir à Serres.
Très bien. Nous allons faire une petite interruption musicale avant de retrouver nos invités de la LPO qui vont poursuivre leur présentation.
Écoutez les rendez-vous des Colibris avec Michel Baillet.
Il apparaît que la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, a un champ d'intervention vraiment très large et diversifié. Est-ce que vous pourriez nous indiquer donc quels sont plus précisément ces champs d'intervention et les qualités d'accueil que vous trouvez auprès de celles et ceux qui font appel à la LPO ?
Oui, je vais prendre l'exemple des liens qu'on a avec le monde agricole sur le territoire de notre groupe local. On a été contacté assez récemment par les vignerons de Rasto, hein, l'ODG des vignerons de Rasto, pour essayer de trouver une solution par rapport aux attaques de vers de la grappe sur la vigne, mais des solutions naturelles. Et donc, il ne s'agit pas forcément uniquement de vignerons bio, et c'est des vignerons de tout type hein, qui sont dans cette cave. On les a rencontrés et on leur a proposé d'installer des nichoirs à mésanges dans le vignoble sachant que les mésanges sont fortes consommatrices de chenilles et que donc elles sont en capacité de réguler les attaques de vers de la grappe. Et donc on a mis en place un programme avec eux de pose de nichoir test dans un premier temps et qu'on va élargir les années suivantes à l'ensemble du terroir viticole. Voilà un exemple très intéressant. Je précise qu'il s'agit pas, c'est pas nous qui avons contacté les agriculteurs, c'est eux qui nous ont contactés, ce qui est une démarche tout à fait nouvelle.
Très bien, c'est en effet intéressant. On est dans le cadre là de la spécialisation de toutes celles et tous ceux qui souhaitent que des méthodes naturelles soient employées au maximum pour répondre aux impératifs de notre agriculture. Donc voilà. Et sur le plan éducation, qu'en est-il ? Jean-Luc, des exemples d'intervention, peut-être avec les écoles, les scolaires, les collèges, etc.
Tout à fait. Alors nous sommes assez régulièrement, voire trop pour nos forces vives, contactés par des écoles, collèges, voire lycées, pour proposer des interventions sur la connaissance de la nature, sur l'environnement, sur les problématiques liées à l'écologie. Pour exemple, cette année, j'ai été sollicité par l'école de Saint-Romain-de-Malgarde, qui demande à ce qu'on monte un projet sur l'étude de l'environnement de l'école, l'environnement proche et l'environnement aussi de la garrigue située à proximité de l'école, pour mieux connaître donc et les espèces végétales qu'on peut trouver dans ces milieux et les oiseaux éventuellement qu'on peut aussi y découvrir, voir quelques papillons. Alors ça s'adresse là à des petits, donc c'est quand même, il faut rester modeste. Donc on essaie de s'adapter au mieux justement à l'âge des enfants. Et là, on a pu donc faire un travail vraiment très intéressant au fil des saisons, étudier la faune, la flore sur l'automne, sur l'hiver. Il nous reste le printemps à voir. Donc en portant la connaissance des enfants, les espèces qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent voir autour de leur école. Et c'est vraiment sidérant, le résultat est sidérant, puisque comme je disais, on s'adresse à des enfants de 3 à 6 ans. Et ce sont des enfants maintenant qui interpellent la maîtresse au cours de la journée en disant « Maîtresse, regarde, là il y a un rouge-gorge. Maîtresse, j'entends une mésange. » Et j'aurais pu, si on avait un écran, j'aurais pu montrer aussi les dessins incroyables, les reproductions d'oiseaux qui sont sidérantes également. Donc c'est absolument passionnant. Et je pense où on gagne, c'est que les enfants rentrent à la maison et répercutent, apprennent à leurs parents à connaître la nature environnante de leur village. Et ça, c'est magnifique. Et j'ajouterai donc que, parallèlement à cette action de connaissance de la faune et de la flore autour du village, on a commencé aussi une opération de repérage des nids d'hirondelles de fenêtre dans le village pour ensuite les compter et répertorier ces oiseaux à l'arrivée du printemps.
Très bien, je suppose qu'une institutrice, un instituteur, un directeur de collège nous écoute et très intéressé par ce témoignage que vient de nous faire Jean-Luc. Il va se dire pourquoi pas, et si j'appelais la LPO pour mon établissement, alors comment ça se passe dans ces conditions ?
Alors c'est souvent, jusqu'à maintenant, en ce qui me concerne en tout cas, c'était souvent du bouche à oreille. Par exemple, j'ai entendu ou quelqu'un m'a passé votre numéro, donc je vous appelle, j'aimerais que... Parfois ça se passe aussi au moment des manifestations que nous proposons, des manifestations publiques, par exemple lors des journées de la science ou lors de la fête des associations, où là, ça nous permet effectivement de rencontrer du monde et de tisser du lien. Voilà, donc c'est par connaissance et pas par bouche à oreille et au travers de manifestations en général.
Mais votre intervention, lorsqu'il s'agit d'un collège ou d'une école, s'inscrit dans le cadre d'un projet d'école, c'est-à-dire que vous devenez un interlocuteur des autorités académiques ? Comment ça se passe ? Quelle est la reconnaissance de votre rôle dans ce cas-là ?
Alors, j'allais dire que ça dépend de l'échelon qu'elle demande. Hein. On s'adresse, pour les écoles, on s'adresse en général au directeur, hein, au directeur d'école. C'est un projet interne à l'école. Mmh. Alors, j'avoue que je ne connais pas les méandres de ce qui se passe en arrière-plan dans ce cas-là. Quand c'est un collège ou un lycée, on s'adresse au chef d'établissement qui est maître à bord et puis qui décide ou pas de valider cette action si effectivement elle entre dans le projet de l'établissement. Bien entendu.
D'accord.
Et d'ailleurs, quand on démarre une action, moi j'attache beaucoup d'importance à évidemment rencontrer les enseignants, les professeurs en amont de l'action pour définir quels sont les centres d'intérêt, quels sont les objectifs de l'action envisagée.
Très bien, très bien. On sait aujourd'hui le rôle joué par l'éducation à l'environnement auprès des jeunes, des enfants le plus tôt possible, de façon à ce que ce soit les meilleurs défenseurs de l'environnement auprès des adultes, qui ne sont pas toujours les meilleurs exemples à suivre pour nos enfants. Mais par contre, là, avec les enfants, on a de bons ambassadeurs. On a évoqué aussi, donc, la possibilité pour la LPO de s'adresser aux agriculteurs. Tu nous as donné un exemple. C'est important, là, hein, ce rôle, hein, ce lien établi entre le monde agricole et le monde de protection de l'environnement, parce que ce n'est pas toujours facile. Et là, il y a une dimension positive que Jean Marin nous a exposée qui mérite vraiment d'être mise en exergue. Et avec les entreprises, qu'en est-il, ou les collectivités territoriales ?
Alors oui, on travaille aussi avec les entreprises, les collectivités territoriales. Je prendrai l'exemple de la mairie de Vaison-la-Romaine, la municipalité nous a contactés, hein, donc pour la mise en place d'un refuge LPO sur le territoire communal. Il s'agit du terrain où il y a eu la catastrophe de Vaison-la-Romaine en 92, et donc qui a été transformé en espace naturel et de loisirs. Et donc la mairie de Vaison-la-Romaine a souhaité labelliser ce terrain refuge LPO et nous a sollicité pour savoir comment on devait, ce qu'il devait faire, etc. Donc on s'est rencontrés sur le terrain avec les élus, avec le personnel, les responsables municipaux, pour faire un état des lieux et faire des propositions d'amélioration pour faire revenir les papillons, pour faire revenir les oiseaux, pour que la nature soit prise en compte dans les aménagements qui sont prévus par la commune. Et donc, on a fait un inventaire sur le terrain et on a commencé à faire des propositions comme l'installation d'une mare pour les libellules, les amphibiens sur ce site, comme arrêter la fauche à certains endroits, mais pas forcément sur tous les endroits, pour faire revenir les fleurs et les papillons, pour installer des nichoirs à oiseaux bien précis, hein, en fonction d'espèces et de visées et des arbres qui existent sur le site. Et donc, la labellisation a déjà eu lieu. Et au-delà de la labellisation, la commune nous a proposé de participer à des animations nature sur ce site avec la population dans le cadre de la journée de la biodiversité qu'elle organise. Donc, on fait des promenades nature sur le site avec les habitants. Enfin, voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'on allie connaissance de la nature, amélioration de la biodiversité dans les milieux urbanisés et sensibilisation du public, éducation à la nature. Voilà. Donc, les refuges LPO, moi, j'invite tout le monde, qu'on soit particulier, entreprise, commune, école. Donc, installer un refuge sur son terrain.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de difficulté à créer un refuge, où qu'il soit, et quel que soit l'utilisateur des services de la LPO.
Aucune difficulté, il suffit de nous contacter. Et donc, on vient pour faire un état des lieux et ensuite faire des propositions. Alors, propositions qui sont à discuter, bien sûr, on n'impose rien. Hein. On discute de ce qu'il est possible de faire. Et puis ensuite, la personne ou la collectivité ou l'entreprise retient ce qu'elle a envie. Je voudrais dire que sur le territoire du groupe Ventoux, nous en sommes à une centaine de refuges LPO hein, à l'heure actuelle. Et ça n'arrête pas. Il y a énormément de gens qui nous contactent, qu'ils soient particuliers, communes, pour s'inscrire dans cette démarche.
Alors, être refuge LPO, c'est un sigle important, hein, une reconnaissance. Qu'est-ce que ça signifie pour le responsable du refuge LPO ? Je ne vais pas dire comme contrainte, mais comme responsabilité.
Alors, il y a une seule contrainte hein, dans la charte. C'est une charte nationale. Hein, donc, il y a une seule contrainte, c'est de cesser l'utilisation de produits phytosanitaires. Ensuite, c'est à mettre en place, les mesures, les éventuelles sont à mettre en place en concertation avec la personne, la collectivité et le groupe LPO, les membres du groupe LPO.
Ça veut dire que de temps en temps, alors, vous allez faire un tour sur ce...
Tout à fait.
Pour voir comment ça se passe, Jean-Luc ?
Oui, alors j'allais dire qu'effectivement, on a un rôle de conseil. Et puis au-delà de cette obligation, de cet engagement de ne pas utiliser de pesticides, on conseille, on apprend aux personnes, morales ou physiques, hein, à mieux gérer leur terrain pour accueillir la biodiversité. Alors, il y a plein de conseils fondamentaux, du genre, bien sûr, on a dit ne pas utiliser de produits phyto, installer des haies variées, installer des haies d'arbustes locales, aussi d'essences locales, si possible, éviter de tondre, laisser les herbes nous faucher le plus longtemps possible, c'est-à-dire faucher en toute fin de saison, en fin d'été, si on doit faucher. Installer des points d'eau, ça c'est fondamental, surtout dans notre région très sèche. Si on peut installer une mare, c'est encore mieux qu'un simple petit point d'eau. Utiliser avec prudence des engins motorisés quand on doit les utiliser. Faire des passages dans les murs, dans les grillages. Bref, il y a tout un tas de conseils vraiment très importants si on veut voir vivre notre jardin.
Et dans l'ensemble, tout se passe bien ?
Dans l'ensemble, ça se passe bien. Les personnes arrivent en fait à redécouvrir, on va dire comme ça,
la nature. Pas de découragement, pas de cessation d'activité. Il y a une forte motivation de celles et ceux que vous accompagnez.
Oui. Alors pour l'anecdote, moi j'avais du mal, j'aimerais un peu en témoigner, j'avais du mal à pas de temps en temps tondre un peu mon terrain. C'est un mal du siècle, c'est-à-dire faire tout beau, tout ras partout. Et puis, je me suis dit que je pouvais juste, en fait, laisser un petit coin de tondu pour le confort, table, chaise, manger, etc. Et en fait, j'ai juste aménagé des allées dans mon jardin au milieu des herbes folles. Et les gens qui venaient à la maison ont trouvé ça absolument superbe. Donc, en fait, on peut faire des très beaux jardins, des jardins naturels excellents à voir à l'œil. Voilà.
Eh bien, parfait. Nous retrouverons le jardin de Jean-Luc dans quelques instants. Et là, nous allons à nouveau bénéficier d'une pause musicale.
Que je me prends la tête. J'avais dit plus de compromis. Donc là j'ai plus rien à compromettre. Les relations m'ont abîmé. Et d'autres m'ont rendu très heureuse. Mais malgré tout c'est décidé. Plus jamais je ne tombe amoureuse. Alors on continue de croire en l'amour. On répète les mêmes fautes. On pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire. J'ai promis l'impossible. C'est pas faute d'avoir essayé. Mes échecs peuvent en témoigner. Pourquoi attendre tout de l'autre? Pour combler nos manques et nos névroses. Pourquoi c'est cape, pourquoi c'est rose? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose? Alors on continue de croire en l'amour. On répète les mêmes fautes. On pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire en l'amour. Mais je dis chaque fois. Ce qu'on définit, l'amour, l'amitié, le reste. Pourquoi attendre tout de l'autre? Pour combler nos manques et nos névroses. Pourquoi c'est casse, pourquoi c'est rose? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose? Alors on continue de croire en l'amour. On répète les mêmes fautes, on pense que ce sera pour toujours. Alors je continue de croire en l'amour. Mais je dis chaque fois que c'est la. Oh.
écouté les rendez-vous des colibris avec Michel Baillet.
Il y a un instant, nous avons découvert le jardin de Jean-Luc, qui est donc refuge LPO, et il nous a décrit quelles sont les attentions qu'il est nécessaire de suivre pour pouvoir répondre donc à ces qualités de refuge LPO. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir Jean Marin, naturaliste, il va nous apporter son regard d'expert sur ce refuge LPO et sur tout ce qu'il peut nous transmettre comme qualité ainsi acquise par cette action.
Oui, donc pour reprendre l'exemple de Jean-Luc, là, qui a été exposé juste avant, le groupe, on organise des suivis naturalistes des refuges à la demande des participants. Et donc, dans le cadre du suivi du terrain de Jean-Luc, on a découvert des espèces qui étaient pas là avant, donc, notamment des libellules qui sont venues s'installer sur Samar, des libellules en grand nombre, sachant que les libellules, les zones humides pour les libellules dans la région, ça ne court pas les rues. Des amphibiens, dont des crapauds qui sont venus se reproduire il y a quelques jours.
Une ponte toute récente.
Voilà. Des papillons, des punaises, enfin toute une série d'espèces qui sont revenues s'installer dans ce jardin.
Et bon, donc, les punaises, il vaut mieux les trouver dans le jardin que dans son lit, si
voilà,
j'ai bien compris.
Voilà, tout à fait. Mais enfin, les punaises font partie de la biodiversité, donc elles doivent être, à ce titre, comme toutes les autres espèces, être étudiées et protégées. J'en profite pour dire que quand quelqu'un s'installe en refuge, il peut nous faire appel à nous pour faire un suivi, pour venir voir ce qui se passe en fonction des pratiques et modifier éventuellement ce qui était prévu initialement en fonction de l'avenue ou non de la biodiversité, etc.
Il y a un instant, Jean-Marin, tu évoquais la présence de libellules, ce qui n'était pas, disais-tu, quelque chose de fréquent, parce que dans notre région, c'est vrai que les zones humides ne sont pas nombreuses. Et qu'en est-il ? Parce que je crois que la LPO aussi permet la découverte sur votre territoire d'intervention, ces zones humides et sur tout ce qu'elles recèlent comme biodiversité qui puisse intéresser tous les visiteurs.
Tout à fait. Les zones humides sur le territoire ne sont pas très nombreuses, en tout cas assez limitées. Donc sur le triangle monteux, bédaride, perne, on a une zone humide très importante qui a donné lieu notamment à la création de zones Natura 2000 et de NS. Ce sont des prairies humides avec des cours d'eau. Et donc, c'est d'une extrême richesse. Dans la région, la vie, l'eau, c'est la vie. Et donc, dès qu'il y a de l'humidité, de l'eau, la biodiversité s'exprime à toute vitesse. Et donc, on organise justement des sorties nature sur ces sites pour faire découvrir la richesse des zones humides. Mais pas seulement la biodiversité et les zones humides, c'est aussi un enjeu pour les ressources en eau, que ce soit pour l'agriculture, mais même pour nous, l'eau potable. Les zones humides, ça joue des rôles très multiples par rapport aux problèmes auxquels on est confronté. C'est rafraîchissant par rapport au réchauffement climatique. C'est l'absorption des orages pour limiter l'effet des crues. Enfin, donc protéger les zones humides, c'est vraiment un enjeu majeur.
Alors, quelle est la démarche à suivre si moi, j'ai envie de visiter une zone humide? Je voudrais bien bénéficier de toute la connaissance que la LPO est capable de transmettre. Qu'est-ce que je fais?
Eh bien, donc, on a un site internet du groupe Ventoux, sur le site de la LPO PACA. Il suffit d'aller voir, on informe le public sur ce site de toutes les activités qu'on fait, et notamment les sorties nature. Voilà, donc il y a nos coordonnées sur ce site, vous pouvez nous joindre pour poser des questions éventuellement. Donc il suffit d'aller sur le site LPO PACA et d'aller sur le blog, au sein de ce site, le blog LPO Ventoux.
Bon, je crois qu'on a eu un espace très intéressant qui a été créé il y a peu de temps, là, auprès d'Aubignan, là, sur Belle-Île, là. On n'a pas une zone humide qui est tout proche de nous, là, qui présente divers intérêts?
Tout à fait. Donc, il y a le site de Belle-Île, mais on a le site des Confines aussi.
Sur Monteux.
Sur Monteux. Oui. C'est vrai que le site de Belle-Île, qui est de création récente, est très intéressant pour les amphibiens, pour les animaux qui vivent dans l'eau.
Alors, les amphibiens, on précise les amphibiens.
Alors, les amphibiens, parce que ça a changé.
Et voilà.
Ça a changé. Les scientifiques, ils ont pour habitude de changer les termes. C'est les anciens batraciens, en fait. Et donc, les amphibiens, bah, c'est les grenouilles, les crapauds, les tritons, alors là aussi, on les salamandres. Tous. Donc, sur ce site, il y a des amphibiens, mais il y a surtout le castor d'Europe qui est installé et qui... Il y a une famille de castors qui vit sur ce site et que nous vous invitons à les découvrir. Mais il y a un site qui a été, en zone humide, qui a été créé encore plus récemment par le département de Vaucluse. C'est le site, dans la forêt de Mormoiron, le site de la Pavouillère, où il reste deux mares et où se reproduit un amphibien très très rare et en voie de disparition, qui est le Pélobate cultripède. Et donc, pour sauver cette espèce, on a créé cet espace, le département a créé cet espace naturel sensible. Et là, LPO, on a obtenu de la part du département d'installer un passage à faune sous la route pour permettre à ces pélobates de ne pas se faire écraser quand ils vont rejoindre les mares au moment de la reproduction, là en ce moment, au mois de mars, avril.
Mais je pense que c'est le moment d'évoquer le rôle joué par la LPO en ce qui concerne les soins à apporter donc, à la biodiversité. Et je crois que le château de Bioux est un site qui est reconnu comme étant ayant une capacité d'accueil pour les oiseaux qui sont blessés ou qui ont besoin de bénéficier d'un peu de repos avant de repartir dans leur espace naturel. Qu'en est-il, Jean-Luc, sur Bioux?
Alors effectivement, on a, je ne sais pas si on peut dire on a la chance, en tout cas on a un site de soins de sauvegarde de la faune sauvage à Bioux. C'est le centre de sauvegarde de la région PACA. Il y a quelques centres de sauvegarde en France. Alors je ne sais plus le nombre exact. Je dirais une quinzaine de centres, Jean-Marin.
C'est ça.
Voilà. Et donc, qui a vocation à accueillir les oiseaux, les animaux au sens large en détresse, mammifères, oiseaux blessés, oiseaux traumatisés par des accidents, des incidents aussi. Et on peut se demander comment arrivent tous ces animaux sur ce site. Eh bien, on a tout un réseau de bénévoles accompagnateurs, on va dire, qui donc, bénévoles transporteurs exactement, qui ont appris les bons gestes pour récupérer ces animaux qui sont en détresse.
Il n'y a pas que les oiseaux.
D'accord. On peut trouver des petits mammifères, hérissons, écureuils, etc.
Les chauves-souris.
Alors voilà, donc dans la limite, effectivement, c'est un site qui a ses limites, hélas, parce qu'il faut des moyens de fonctionnement et puis il faut du personnel. Donc on essaie de répondre au mieux à la demande. Et donc ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en allant sur le site LPO PACA, on peut trouver des fiches de première, on va dire, de premiers soins, de première intervention pour agir soi-même avant d'aller jusqu'au site. Parce que parfois, il suffit de... Je prends l'exemple d'un oiseau qui va se cogner sur une vitre. Et il ne faut pas s'amuser à le ramasser puis à le prendre dans les mains, etc. Il faut le mettre au calme dans un carton, voir s'il va mieux au bout de quelques instants. S'il va mieux, on le relâche. Voilà. Il y a des petits conseils comme ça sur des actions de premier secours. Et c'est ensuite, dans un second temps, si on voit qu'on ne peut rien faire, parce qu'en plus, je signale qu'on n'a pas le droit de détenir d'animaux sauvages chez soi, quel qu'il soit.
Non, donc protégé.
Oui.
Les animaux protégés.
Donc dans un second temps, eh bien voilà, on se tourne vers le site. Alors je vois que la page Facebook, je ne l'ai pas en tête, mais disons qu'on va aussi du coup sur le site de LPO PACA, et puis on trouve toutes les références du centre de sauvegarde.
Donc vous avez des vétérinaires
qui travaillent avec vous là.
Alors en ce qui concerne les vétérinaires, on a une personne qualifiée au centre de Bioux qui est qualifiée, qui a un diplôme pour faire ça. Mais par contre, on travaille avec les vétérinaires locaux. Il y a tous les vétérinaires de la région, enfin pas tous,
d'accord,
mais un nombre de vétérinaires, nous servent de relais et de points d'appui pour pouvoir, par exemple, conseiller les gens, etc.
C'est la région qui met à votre disposition le château de Bioux.
Oui, exactement.
C'est une collectivité territoriale.
Oui.
Bon, si je pose la question, parce qu'il est important de pouvoir mesurer l'engagement des collectivités territoriales dans ce que vous représentez vous-même dans la protection de la biodiversité. Donc que ce soit les communes, les départements et la région. Donc on peut se féliciter, je vois que le département crée des espaces naturels sensibles. Et dans ce cadre-là, eh bien, vos objectifs se trouvent eux aussi soutenus par ces collectivités.
Alors je voudrais faire une remarque sur le crapauduc, enfin le passage à faune là, pour le site de la Pavouillère. Donc le passage pour les crapauds sous la route, c'est le premier crapauduc qui est fait dans la région PACA, qui est mis en place dans la région PACA. C'est vraiment à souligner.
Bien. Bien sûr, très important. Je crois qu'il y a aussi, auprès de la LPO, la possibilité de trouver énormément d'informations grâce à la mise en place du site internet PACA. Dites-nous ce qu'il en est exactement.
Ah, Faune PACA, en fait. Le nom exact, c'est le site internet Faune PACA. Donc, en fait, c'est depuis 2009, la LPO PACA a mis en place, dans le cadre de la mise en place nationale dans toutes les régions de France, de sites internet identiques. C'est un site de science participative où chaque personne, qu'elle soit naturaliste confirmée, professionnelle, amatrice ou simple citoyen, peut venir mettre les observations qu'il fait sur son jardin, mais sur un territoire sur lequel il a décidé de s'investir. Et donc, il s'agit aujourd'hui, il y a environ 15 000 personnes qui sont inscrites sur la région PACA. Et il s'agit aujourd'hui du premier site de sciences participatives naturelles, naturalistes de la région, qui dispose actuellement d'environ 10 millions de données naturalistes dans toutes les communes, dans tous les secteurs, et tout type de données, c'est-à-dire oiseaux, mammifères, insectes, etc., etc.
C'est très bien. Bon, mais il est important d'insister aussi. Je veux dire que la biodiversité, c'est pas seulement aussi... Et c'est important, les pieds dans le terrain et l'observation, mais c'est aussi tout ce qui est recensement scientifique, expertise et ensuite communication et partage. Bon, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, j'aimerais que vous nous indiquiez aussi quelle est la façon dont vous permettez la communication pour que vous soyez bien connu, votre participation dans les événements, etc. Et puis on conclura en faisant un petit peu un état des lieux. Avons-nous des raisons d'être optimistes, d'être pessimistes par rapport à l'évolution de la biodiversité, les espèces menacées, les espèces qui sont aujourd'hui en voie de progression, etc.
Alors, comme je disais, on essaie d'être présent sur les manifestations qui ont trait à la nature. Donc, on répond présent aux journées de la science, qui ont lieu chaque année, qui étaient à Carpentras jusqu'à maintenant, qui ont lieu maintenant sur Caron, sur la commune de Caron. On est présent à la journée des associations. On a bien sûr le site dont on parlait, alors qui est très riche. Je vous invite vraiment à aller voir le site LPO PACA, où on a tous les liens possibles sur des espèces, sur comment faire avec un animal blessé, connaître les animaux de notre région, connaître les enjeux de la nature, connaître les espaces naturels, etc. C'est un site très, très fourni. Donc je vous invite à aller le rencontrer, à aller le voir, le consulter.
Très bien. Alors, avant de nous quitter, est-ce que nous allons nous quitter sur un constat optimiste ou un constat pessimiste de la situation de la biodiversité dans le cadre de votre rôle?
Alors, personnellement, un constat tout à fait optimiste, même si l'érosion, l'effondrement de la biodiversité, on le constate, mais c'est la mise en place, donc le nombre d'espèces menacées est important sur le territoire, mais c'est les actions qui sont en train d'être mises en place pour prendre en compte les espèces menacées, la biodiversité, dont on a fait part jusqu'à maintenant dans cette émission, qui peuvent rendre tout à fait optimistes. On a un nombre de personnes qui nous sollicitent pour agir, pour essayer de prendre en compte la biodiversité dans leur jardin, sur le territoire, etc., qu'on n'a jamais vu. Depuis la crise du Covid, on est sollicité en permanence.
Eh bien, merci Jean-Luc et merci Jean-Marin. Je crois qu'il était important de terminer sur ces mots-là. Merci Jean-Marin. Merci à Bruno pour la technique. Et en souhaitant que les refuges et le PO puissent se multiplier, Écolibri vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouveau rendez-vous.
Michel Baillet vous a présenté les rendez-vous des colibris.